Et oui, au salon de l'auto, Fabrice, en public et en direct du mondial de l'automobile, comme on dit. Et pour parler de celui qui fut sans doute le plus célèbre constructeur de voitures, Henry Ford. La finalité de la richesse n'est pas de faire de l'argent, mais de faire que l'argent améliore la vie. Henry Ford. D'histoire. Henry Ford n'a pas découvert le moteur à essence, ni même le travail à la chaîne grâce auquel il a pu fabriquer les premières voitures accessibles à tous. Et pourtant, il est le constructeur le plus célèbre de l'histoire de l'automobile, celui qui l'a fait passer de l'artisanat à l'industrie et dont les usines ont fourni dans les années 20 plus de la moitié des voitures roulant aux États-Unis. Elles ont permis à Henry Ford de devenir en quelques années un des hommes les plus riches du monde. Une réussite extraordinaire pour ce fils d'un fermier de Michigan, né en 1863 pendant la guerre de sécession, et dont la vocation a commencé quand, à l'âge de 13 ans, il a vu passer sur une route une étrange machine qui n'avait pas besoin de chevaux pour se déplacer.
Oh ben, qu'est-ce que c'est ?
On dirait une chaudière à roulettes.
En tout cas, il n'y a pas de chevaux. Et pourtant, la voiture avance toute seule.
J'ai jamais vu une chose comme celle-là depuis que je suis né.
J'avais jamais vu une voiture qui avance sans chevaux.
C'est la vapeur, fiston.
Henri, ne t'approche pas. Cette machine crache du feu. Reviens, c'est peut-être dangereux.
Vous venez de loin, monsieur.
De Détroit.
Cette machine, vous l'avez faite vous-même. Vous avez eu du mal.
Grâce à laquelle Henry Ford aurait découvert sa vocation. Elle ne ressemble pas beaucoup aux voitures qui vous entourent aujourd'hui au mondial de l'automobile, mais elle en est un peu l'ancêtre. Patrick Le Sueur, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'automobile et l'auteur entre autres d'un livre sur les deux plus célèbres voitures de Ford, les Ford T et A, qui est conçu par un homme qui est sans doute peut-être, je pense que c'est le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle d'automobile, un homme extrêmement célèbre dans cette industrie. Pour quelle raison ? Parce qu'après tout, c'est pas lui qui a inventé la voiture, je l'ai dit.
Non, du tout, c'est pas lui qui a inventé la voiture, bien qu'en 1896, il construise sa première automobile à moteur de type auto, à combustion interne, mais c'est pas le premier, effectivement. Son concept à lui, c'est la voiture de masse, c'est la voiture pour tout le monde, c'est l'idée qui va l'animer tout au long de sa vie et de sa carrière. Qui, dans un premier temps, il aura du mal à mettre ce concept en route, puisqu'il ne sera pas maître de son destin. Il essaiera de construire, de bâtir sa propre société. C'est un homme qui a beaucoup d'idées, mais pas beaucoup d'argent. Donc, avant la formation de la Ford Motor Company en 1903, il va s'essayer à fonder plusieurs types de compagnies automobiles, mais qui feront bizarrement faillite toutes les deux. C'est la Detroit Automobile Company et la Henry Ford Motor Company. Et en fait, à l'aube de son 40e anniversaire, il est plutôt en mauvaise posture. Il a un petit travail dans la compagnie de lumière électrique de Edison.
Mais on y reviendra, Henri Le Sueur. Mais ce qui me frappe, vous l'avez dit d'ailleurs...
Pas Henri Le Sueur.
Pardon, Patrick Le Sueur. Ce qui me frappe, c'est que c'est sa vocation très précoce. Hein. Il y a cet extrait d'un téléfilm où on dit qu'il a vu cette machine à vapeur et puis qu'il se met à bricoler. Il est né, je l'ai dit, pendant la guerre de sécession.
Pendant la bataille de Gettysburg.
Il était beaucoup plus doué pour le bricolage que pour les études ou même pour le travail à la ferme, puisqu'il est né dans une ferme.
Bah, son père, William, est un émigrant d'Irlande. On voulait en faire un fermier, évidemment. Il a tout de suite vu que, pour le jeune Henry, c'était pas du tout l'avenir qu'il avait prévu. Il s'intéresse très vite, effectivement, aux choses mécaniques, notamment aux montres. Il sera toute sa vie un collectionneur assidu de montres. Et dès qu'il aura un peu d'argent devant lui, si je peux dire, il fondera une collection tout à fait extraordinaire qu'on peut voir encore à son musée. Donc en fait, son avenir, c'est vrai que c'est un avenir mécanique, pas du tout de fermier comme voulait faire son père.
Son père qui disait, que son fils Henri n'avait pas un cerveau, mais des roues hein, dans la tête. Alors, il travaille, vous l'avez dit, dans la compagnie Edison. Il se marie aussi en 1888 et puis passe son temps libre pour bricoler sa toute première voiture en 1896.
Ah, oh, mais les roues sont arrivées. Elles sont terriblement minces.
Bah, oui, bien sûr. Un type mince court plus vite qu'un gros bonhomme. Il faut essayer de gagner du poids, faire une voiture plus légère.
Et elle sera moins chère.
Mais et plus de gens pourront se l'offrir.
Je suis sûr qu'elle va rouler.
Bonne chance, Henri.
J'ai de la chance, puisque je t'ai.
Allez, pas.
Allez. Oui, ça roule. J'en étais sûr. Ça marche, Henri. Et voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette machine, monsieur Murphy?
Je pense que votre mari et moi, on va construire des voitures.
Cette toute première voiture, elle ne ressemblait pas du tout, encore une fois, à celle qu'on peut voir aujourd'hui. C'était une espèce de châssis avec quatre roues, il n'y avait pas de carrosserie, il y avait un moteur, il y avait quelque chose qui ressemblait vaguement.
Oui, alors il n'y avait pas de volant.
C'est ce qu'on appelait le quadricycle.
Hein. Alors, exactement. Donc la voiture était manœuvrée par ce qu'on appelait une queue de vache, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le volant. C'est extrêmement rudimentaire. C'est une voiture qu'il a construite le long de sa maison, au 58 Bagley Avenue à Détroit, qui existe toujours, qui deviendra une usine Ford plus tard. Et il commence donc à faire des essais dans la ville de Détroit avec ce... Alors effectivement, qui est extrêmement rudimentaire, mais tous les véhicules à cette époque, même en Europe, étaient encore extrêmement rudimentaires, sans volant, avec des moteurs soit en V, à bicylindre, soit monocylindre. Et c'est sa première expérimentation automobile.
Et on en est effectivement au tout début de l'automobile. L'Amérique d'ailleurs n'est pas un grand constructeur à l'époque. Hein, c'est très artisanal ce qui se fait. Je crois qu'il y a une trentaine d'entreprises qui fabriquent 2000 voitures à la fin du 19e siècle. C'est pratiquement rien, hein, la production américaine.
Il y a Oldsmobile à l'époque qui en 1896-95 commence à expérimenter des voitures. Mais effectivement, à cette époque en Europe, nous sommes plutôt en avance. Mmh. C'est vrai.
Alors là, il y a donc ce quadricycle qui va quand même à une vitesse prodigieuse, hein, 32 km/h. Hein, c'était l'époque.
Quadricycle est toujours conservé.
Toujours
hein,
conservé.
Par la Ford Motor Company, c'est vraiment.
Et puis alors, elles sont construites ces voitures américaines à peine 2000, hein, ce qui veut dire d'ailleurs que personne pratiquement ne peut en acheter une. C'est très artisanal. 30 constructeurs, 2000 voitures. On se doute qu'elles sont très chères, Pierre-Patrick Le Sueur.
Bah, la voiture à l'époque, autant en Europe qu'aux États-Unis d'ailleurs, était réservée. Aux privilégiés de la fortune, pour bien le dire. Le concept de la voiture populaire n'existait pas. C'était encore quelque chose d'expérimental sur quelques investisseurs ou quelques inventeurs vont y voir un avenir conséquent. Mais pour l'instant, c'est effectivement peu de choses, encore très peu de choses.
Alors lui, il va fonder sa propre compagnie. Il y a pas mal de déboires, je crois, au début. Hein. Il voulait construire des voitures de course. Il a quand même atteint et même dépassé les 100 km/h.
Il a été recordman du monde de vitesse en 1904 sur le lac gelé du côté de Détroit. Mais ça, c'est sa carrière sportive automobile sera vraiment très très courte.
Et puis alors en 1903, vous l'avez dit, il fonde son entreprise, la Ford Company, avec laquelle il fabrique ses tout premiers véhicules, les Ford A, B, C, et puis ainsi de suite, jusqu'en 1908 avec ce modèle qui va révolutionner l'industrie de l'automobile.
Henri.
Oui.
Comment appelle-t-on ce nouveau modèle?
Je voudrais qu'on lui trouve un nom très simple. Peut-être une autre lettre de l'alphabet. Où on en est?
On en est à la lettre T, sauf erreur.
Alors, appelons-le le modèle T.
Modèle T.
Bien, patron. Cette voiture va révolutionner toute l'industrie automobile pour des années. La voiture des gens modestes, pas celle des gens de premier plan, mais celle de tout le monde. Nos usines vont fabriquer et vendre tellement de modèles T qu'il n'y aura plus assez de nombre pour les commandes.
Bravo! Bravo!
Attention, mes amis, ouvrez le passage parce que je vais démarrer.
Alors, Patrick Cossieur, dans votre livre, vous écrivez que s'il existe une hiérarchie dans l'histoire de l'automobile, de grande diffusion en tout cas, la Ford T est en tête. Pour quelle raison? Comment expliquer le succès considérable qu'elle a pu avoir aux États-Unis, même dans le monde, parce qu'on a vendu dans le monde entier?
Bien sûr. Et alors là, donc le 1er octobre 1908 est construit la Ford T, la première Ford T. Et là, Henry Ford a les mains libres maintenant. Il a sa compagnie, il a racheté le capital de sa compagnie, il peut construire la voiture dont il rêvait. Avant, il avait les mains un peu liées parce qu'il ne contrôlait pas son destin. Là, maintenant, il va construire la voiture de ses rêves. C'est-à-dire, la voiture de ses rêves, c'est celle qui va s'adresser à tout le monde. La voiture Universal Car, la voiture qui va bon marché, facile à entretenir, qui va pouvoir se rouler sur toutes les routes encore extrêmement peu asphaltées des États-Unis et d'ailleurs dans le monde, et une voiture extrêmement rustique. C'est là le concept principal qui va faire le succès de la voiture.
Oui, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais Ford, en fait, ne faisait le succès, le prix très faible, avant même d'ailleurs d'introduire le travail à la chaîne dont on parlera, c'est le fait que c'était une voiture standard. Elle n'a pas changé du tout dans sa conception pendant une vingtaine d'années. Même la couleur d'ailleurs est restée la même. On lui disait mais non, il faut que vous changiez un peu de couleur, il faut que ça puisse attirer tout le monde. Il disait non, pas question, il y avait un slogan que...
Mais parce qu'on s'est aperçu que le procédé chimique de la couleur noire, puisque c'est celle-ci dont il s'agit, séchait beaucoup plus vite que des autres teintes qu'on avait essayé. Donc il a conservé très longtemps cette couleur noire. À la fin de la carrière de la T, est apparu des gris, des bordeaux, des bleus.
Oui, mais à l'époque, il disait, je crois, vous pouvez choisir la couleur de votre Ford pourvu qu'elle soit noire.
C'est devenu une boutade, effectivement, à l'époque.
Et puis alors, le prix, effectivement, ne va jamais cesser de baisser. C'est peut-être ce qu'il y a de plus attractif, qui explique son succès. Surtout quand, effectivement, en 1913, il est, je crois, le premier constructeur de voitures à introduire le fameux travail à la chaîne. Encore une fois, il ne l'a pas inventé, mais c'est lui qui le fait entrer dans l'automobile, Patrick Cossieur.
Effectivement, en avril 1913, il met en pratique les théories de Frank Taylor sur le travail à la chaîne, le travail posté, opération par opération, qui sera ensuite extrêmement contesté par les syndicats et...
On va dire que c'était un peu abrutissant.
C'était des travaux répétitifs, extrêmement contraignants. Mais ça permettait d'abaisser le temps de construction de la voiture d'une façon extrême.
Oui. Il est passé, je crois, pour une Ford T de 12h30 de fabrication, de montage, à 1h30 à peine. Alors il y a cette formule de Ford qui est assez amusante pour expliquer tout ça. L'homme qui met une pièce ne la serre pas, l'homme qui pose un boulon ne pose pas l'écrou, et celui qui pose l'écrou ne le serre pas, tout bouge dans l'atelier. Aucun ouvrier n'a plus à se déplacer ni à lever quoi que ce soit. Enfin, ça veut dire que, grosso modo, c'est pas l'ouvrier qui bouge, c'est la voiture qui vient devant lui.
Voilà. Et ça, à cette époque, c'est un concept révolutionnaire.
Alors, ça permet donc de diminuer considérablement les coûts. Et puis alors, tout le monde se met à en acheter, Patrick Cossieur.
Ben oui, parce que, encore une fois, la voiture a déjà un prix attractif lors de son lancement. Il ne cessera, comme vous l'avez dit, de baisser. Alors effectivement, il remplit là un vide, c'est-à-dire c'est l'accès à l'automobile pour la plus grande partie de la population qui jusqu'à maintenant en était exclue. Donc c'est vraiment ça son idée révolutionnaire. Il y a une seconde idée importante à mettre au crédit d'Henry Ford, c'est qu'il a une vision mondialiste de sa voiture. Évidemment, elle est construite aux États-Unis, mais dès 1904, elle est construite au Canada, c'est la première, 1904, un an après la fondation de la Ford Motor. Elle sera ensuite construite en France dès 1905. Alors c'est avant la Ford T, mais dès 1905, on a Henri de Passe qui importe la voiture, qui apporte ses produits. Elle est construite rapidement au Japon, en Australie, en Angleterre dès 1911, la Ford T, avec les mêmes méthodes de production. Il faut bien comprendre que c'est ça le succès mondial de la voiture. Et lui, l'idée qu'il avait, qu'il a défendue avant tout le monde peut-être, je suis même persuadé, c'est ça. Voiture populaire, bon marché, rustique, construit dans le monde entier.
Accessible à tous, y compris d'ailleurs à son personnel, puisque il était connu aussi, je crois, Patrick Cossieur, pour bien payer ses ouvriers. Il disait, l'employeur doit créer des acheteurs, des clients, ses propres ouvriers doivent être ses meilleurs clients. C'est pour ça qu'il les payait bien, d'ailleurs.
Alors, en 1914, il institue la journée de 8 heures payée 5 dollars, alors qu'elle est de 9 heures. De 9h à 2,40 $ chez tous ses compétiteurs. Il institue aussi des hôpitaux, des crèches, des écoles d'alphabétisation pour tous ces ouvriers étrangers. Ça aussi, c'est un de ces concepts très innovants pour l'époque.
Alors, il va construire beaucoup. Et combien de Ford ont été, de Ford T, parce qu'il ne construit que ça hein, pendant 20 ans.
Alors, de 1908 à 1927, il pratique la politique du modèle unique, avec quand même des évolutions hein, tout au long de la carrière de la voiture. Il en construira autour de 16 millions 500 000.
Est-ce qu'il représente, je crois, plus de la moitié des voitures qui roulaient aux États-Unis? C'était
alors,
les Ford.
Alors, ce chiffre que je viens de citer inclut toutes les filiales européennes et autres.
Mais alors, il y a un moment donné quand même, entre-temps, il a passé, je crois, la main, enfin, en principe, à son fils, Hetzel, c'est lui qui devient le patron.
En 1919, il devient le, son fils unique, né en 1893, devient le patron de la Ford Motor en 1919.
Oui. Mais alors, quand son fils, quand les cadres de cette firme commencent à lui dire « Mais attention, on vieillit », lui, il n'écoute pas du tout. Il veut continuer à faire de la Ford T. Il considère qu'il n'y a pas à changer, même si la concurrence, parce qu'elle est importante, elle se développe, la concurrence.
Alors, effectivement, alors là, c'est un de ses points négatifs. C'est-à-dire que c'est un garçon qui, on va dire, est un petit peu têtu sur ses idées. Et il a vraiment tardé, trop tardé à changer son modèle T. Puisque quand il l'a abandonné finalement en 1927, la concurrence était quand même extrêmement affûtée, notamment celle de la General Motors et de son concurrent de toujours, c'est Chevrolet, qui commençait à présenter des voitures extrêmement mieux finies, avec un 6-cylindres. Et effectivement, là, il a peut-être un petit peu tardé et perdu beaucoup d'argent.
Comme vous le voyez, les chiffres des ventes du modèle T parle de même.
Oui, c'est ça.
En 1923, 57% de toutes les voitures produites en Amérique. En 1925, 45%. En 1926, 34%. Messieurs, ces chiffres reflètent bien la réalité. Les chiffres disent que le public ne veut plus de notre modèle T. Il est complètement hors du coup. Il est dépassé au point de vue mécanique, vitesse, suspension, transmission. Il est dépassé au point de vue ligne. Chevrolet nous a dépassés et notre retard s'accentue. Il est temps de profiter de leur leçon. On vient de prendre une décision. On va fabriquer un nouveau modèle.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour que toute l'Amérique, et je peux même dire une bonne partie du monde, attend dans la fièvre. Parce que vous allez enfin pouvoir admirer le premier exemplaire du nouveau modèle fabriqué par Ford, le modèle A.
Why, there's Fox and Sable soap and stables, we've got all you need. For your home and your office purchase by Yankee guaranteed. Buy the Yankee brand of candy, cigarettes, cigars, canes and hats and this and that, and gas and motor cars,
If you want to cheer up the red, white and blue, buy American, that's all you've got to do. Your old Uncle Sam will be grateful to you. Buy American, that's all you've got to do.
Now, hey there, Mr. Grocer, Butcher, Baker, and all you Republicans, you Democrats, and you Quakers, I want to tell you that the sun will be shining, the skies will be blue. Buy American, that's all you've got to do, playing boy. Come on and buy American, that's all you've got to do.
Buy American, Fred Lewis en 1933, 5 ans après l'apparition de la Ford A. Peut-être moins connue aujourd'hui, mais elle a eu un énorme succès également, Patrick Le Sueur.
Alors la Ford A est présentée en 1927. Bon, elle a eu un énorme succès, mais elle a été construite quand même aux alentours de 5 millions d'exemplaires, ce qui est pour le vieil Henri une plaisanterie. Mais là, la politique du modèle unique était plus possible à cette époque-là, parce que la concurrence était vraiment aguerrie. Ça impliquait de changer les modèles, d'avoir une période de vie par modèle nettement inférieure.
Un innovateur hein, quand même, un des premiers aussi à avoir mis dans ses voitures des V8.
Alors, ça c'est son second
pari. Hein.
Ça c'est son second pari, c'est en 1932. À la fin de la production du Ford A 1927, il a fermé ses usines pendant près de 7 mois pour préparer son nouveau modèle. Je précise que pendant ces 7 mois, il a perdu 150 millions de dollars, ce qui à l'époque est une somme absolument colossale.
Bon, dérisoire pour lui, il faudrait gagner des fortunes.
Oui, enfin, les comptables venaient souvent le voir en lui disant, monsieur Ford, ouais, avec des pincettes, parce que c'était un... Il disait, tout ça, c'est des broutilles. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on va avoir maintenant. Ouais. Donc l'idée qu'on va avoir maintenant, c'est de faire un V8. Alors je rappelle qu'un V8 en 1932, c'était réservé uniquement aux voitures haut de gamme. Lui, son idée, c'est d'être faire un V8 pour
tout le monde, pour
le peuple.
Une fois, ouais.
Voilà, c'était ça son idée. En sachant, il savait que Chevrolet avait un 6 cylindres, donc ses conseillers techniques les plus proches lui disaient, mais pourquoi vous faites pas un 6 cylindres? Parce qu'un 6 cylindres, Chevrolet le fait. Nous, on va faire un V8. Alors, par des procédés de fonderie que je vais pas expliquer ici, qui seraient très longs, il a réussi à baisser le coût de fabrication d'un V8 à celui d'un 6 cylindres classique, voire d'un 4 cylindres.
C'est vraiment un homme qui est très attaché au progrès, au bien-être, et en même temps, Patrick Lhoeseur, c'est un conservateur, même parfois réactionnaire. Sur le plan social, par exemple, pas question que les syndicats entrent chez Ford.
Non, alors c'est effectivement un étrange personnage. C'est un mélange d'innovation et d'obscurantisme mélangé. Alors c'est vrai que sur les syndicats, ce sera le dernier constructeur américain à reconnaître le United Auto Workers, qui était le syndicat automobile, en 1937. Jusque-là, il s'y était fermement opposé, parfois avec une certaine violence d'ailleurs, puisque... Il utilisait l'agence Pinkerton pour faire le service d'ordre de ses usines, qui n'étaient pas des cœurs tendres.
Un tyran domestique un peu chez lui aussi, parce que même s'il passe la main à son fils Edsel, il reste le patron de la firme, il n'écoute pas tellement son fils, avec lequel il ne s'entend pas bien.
Alors, si on peut en dire un mot, Edsel, oui. Ford et Henry, il lui cède la main effectivement sur l'entreprise en 1919, mais il est toujours derrière à tenir les rênes fermement. Et Edsel, c'est le tout à fait le contraire d'Henry, c'est un esthète qui aime les arts, qui fera venir Diego Rivera à Détroit pour faire une fresque, qui encouragera le musée d'art moderne de New York et qui aura des idées sur le style automobile très précises sur la division Lincoln, qui est la division de luxe de la Ford Motor, achetée en 22. Et là, Edsel exercera son art. Et pour lui, Henry, tout ça, c'est un peu Piccadilly.
Oui, il n'aime pas aussi non plus le progrès, il est très attaché aux valeurs de la terre, de laquelle il vient. Il refuse même le crédit, ce qui quand même, quand on fait de l'automobile, est plutôt difficile. Il n'aime pas du tout les banques. Hein,
parce qu'il se méfie des banques. Oui, voilà. Ça, c'est son vieux concept peut-être paysan irlandais qui lui est resté du 19e siècle. Il a une méfiance envers les banques. Il a un principe, c'est que tout l'argent doit être dépensé. Ah, c'est grand, aux grandes dames de ses comptables.
Alors, il se méfie des banques, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il se méfie de la finance parce que, selon lui, eh bien, les Juifs aux États-Unis en sont maîtres, très antisémites, ce qui d'ailleurs va lui apporter la sympathie d'un admirateur plutôt gênant de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui. Monsieur Ford,
oui.
Me permettez-vous de me présenter à votre famille, Gerhard von Klaus, consul général d'Allemagne. Nous admirons beaucoup votre très grande valeur et votre réussite.
Eh bien, c'est très gentil de votre part.
Cher monsieur, je vous apporte aussi les feux personnels du Führer lui-même. Il m'a chargé de vous dire à quel point il avait été frappé par l'hostilité que vous avez toujours montrée pour la haute finance.
Non, j'aime mieux ne pas en
parler. La haute finance est aux mains des Juifs. Pour qu'ils n'entravent pas sa politique, Hitler a décidé de mettre en œuvre des mesures raciales inspirées en partie par votre position. Et à titre de remerciement, je vous décore, au nom du Führer, de la médaille de la patrie. Heil Hitler!
Alors ça, c'est un aspect de la vie de Ford que les Américains n'aiment pas rappeler. Hein. C'est vrai qu'il était antisémite, il l'était d'ailleurs bien avant. Il était dès les années 20 dans un journal qu'il avait acheté qui s'appelait le Dearborn Independent. Il avait des propos contre les Juifs.
Alors dire qu'il était antisémite, ça me semble extrêmement exagéré. Alors effectivement, il a entretenu une... dans le Dearborn Independent, des chroniques qui étaient effectivement légèrement antisémites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est effectivement impardonnable et ça fait partie d'un point noir de sa vie d'industriel. Ceci aidant, la fameuse histoire de la médaille remise par le consul allemand, effectivement, il n'aurait pas dû l'accepter, comme on ne devrait accepter rien du chancelier Hitler à cette époque. Mais
on dit qu'Hitler l'admirait.
Oui, alors ce qu'il admirait, Hitler, c'est son efficience industrielle, on va dire.
Ouais.
Par ailleurs, il avait son architecte, qui s'appelait Albert Kahn, qui était un...
L'architecte de Ford.
Architecte de Ford, qui a construit tous ses bâtiments, qui était un juif, avec lequel il entretenait d'excellents rapports. Et quand on lit les mémoires d'Albert Kahn, celui-ci ne... ne mentionne aucune agressivité ou racisme à son endroit.
Enfin, quand même, d'ailleurs, il était tellement gênant que je crois, j'ai appris que les producteurs d'Hollywood avaient fait interrompre cette campagne antisémite en menaçant Ford de montrer dans leurs films des Ford T qui déraperaient et qui se planteraient dans les arbres.
Alors, Henry Ford, c'est un personnage tellement important industriellement et socialement que il se prête à beaucoup de légendes. À mon avis, celle-là en est une. Faut se méfier un petit peu, surtout quand on veut faire du sulfureux, on est toujours prêt à en rajouter un petit peu. Alors, il n'empêche qu'il a tenu ses propos dans l'Irlande indépendante, et ça, on ne peut pas lui pardonner.
Et plus tard, à la fin des années 30, d'ailleurs, il va participer, comme Lindbergh, à une campagne contre l'entrée en guerre des États-Unis. Finalement, les États-Unis y entreront. Ford va même faire construire quand même du matériel de guerre, va participer à l'effort de guerre.
Mais il avait commencé très tôt. Il avait fait une campagne de Pacifique. À l'entrée des États-Unis pour la Première Guerre mondiale. Il a même été jusqu'en Norvège sur un bateau avec ça. Ça s'est terminé un peu en autre boudin, mais c'était effectivement son credo.
Et alors donc, l'entreprise Ford va continuer de prospérer pendant la guerre. La fin de la vie de Ford est un peu triste. On dit qu'il vivait un peu comme Howard Hughes, entouré par un garde du corps qui l'isolait du reste du
monde. Non, alors voyez, alors ça encore,
ça aussi,
c'est totalement une légende.
Il
vit
beaucoup,
non, oui, bien sûr. Mais il ne vit pas du tout isolé. Il a vécu jusqu'à 83 ans. Il est mort en 1947. Mais il vivait pas du tout isolé. Il allait même tous les jours à son usine avec son chauffeur. Mais voilà, absolument pas isolé de son entreprise ni de ses proches.
Et donc il meurt un peu quand même dans la solitude, dans des conditions un peu spéciales en avril 47. Je crois qu'il y a eu une panne d'électricité.
Oui, alors il meurt dans sa résidence de Fairlane, mais il se trouve qu'il y avait une coupure de courant à cette époque et il est mort juste un peu avant minuit aux lumières des bougies.
Et il passe la main donc à son petit-fils, puisque son fils est mort en 43.
Au fils d'Edsel.
Au fils, donc à son petit-fils, Henry Ford II, qui parlait à la radio française pour le Salon de l'automobile, on disait pas encore le mondial, en 1948.
Ici Pierre Crenès qui vous parle de New York. Nous vous présentons aujourd'hui une interview exclusive avec Monsieur Henry Ford II, petit-fils d'Henry Ford, fondateur de la dynastie d'industriels connue dans le monde entier. Nous apportons ainsi notre contribution au Salon de l'automobile de Paris. Monsieur Henry Ford, pourriez-vous nous dire tout d'abord en quelle année Henry Ford, votre grand-père, a construit sa première voiture?
Mon grand-père a construit sa première voiture en 1896.
Et combien de voitures les usines Ford ont-elles produites depuis cette date?
Nous avons produit dans le monde entier plus de 34 millions de voitures et camions.
Combien y a-t-il d'ouvriers employés dans vos usines?
La Ford Motor Company emploie aux États-Unis à présent 140 000 personnes.
La compagnie Ford de France vient d'introduire un nouveau modèle. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet?
Avec plaisir. La nouvelle voiture de tourisme a été présentée au Salon de Paris la semaine dernière. Elle est à peu près de la même dimension que la modèle française de l'année dernière.
Et c'était Henry Ford, deux petits-fils de Henry Ford, le patron. Je crois que, est-ce que Ford aujourd'hui est encore dirigé par la famille Ford? C'était une entreprise familiale.
Ben écoutez, elle a été longtemps non dirigée par un Ford et à l'heure actuelle, elle est dirigée par William Clay Ford Jr., qui est arrière-petit-fils de Henry Ford Ier.
Merci Patrick Le Seur et merci à tous ceux qui sont venus nous voir ou nous entendre en direct du Mondial de l'automobile. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, la Ford T.E.A. publié aux éditions ETAI, Collection de mon père, et l'aventure du Salon d'automobile qui vient de paraître chez Hachette Collection. À lire également Les plus belles années Ford de Fabien Sabatès aux éditions Massin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm en deux parties, Ford, réalisé par Alan Eastman avec Cliff Robertson dans le rôle d'Henry Ford. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrice Klein, Laurence Serin, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Catherine Nouy et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.